Cube Radio. Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
C'est peut-être fondamental là, ce qui se joue présentement à la Chambre des communes. Je dis fondamental en vue de l'élection qui se pointe potentiellement à la fin de l'été.
Oui, puis moi je m'ennuie de la première vague.
C'est-à-dire? Ah, de la collaboration entre les partis?
Oui, mais à la première vague, le gouvernement valsait, toi, 200 milliards à la fois, tu sais. Puis 2 milliards à la fois, on y allait, on s'assoyait, on négociait, on trouvait un compromis. Là, sur une loi aussi importante que la loi électorale, on est dans une opération de crêpage de chignons partisans. C'est un peu déprimant. En temps de pandémie, là, on oserait espérer que la classe politique a appris comment se concentrer sur les vraies affaires. Pourquoi on en est rendu là? Parce qu'au mois de septembre, le directeur général des élections, dont c'est le boulot de veiller au bon déroulement des élections, a mis en garde les parlementaires en disant, écoutez, organiser une élection au Canada en temps de pandémie, c'est assez compliqué. Nos travailleurs électoraux sont souvent plus vieux. Il faut éviter les rassemblements. Donc, il a émis une série de recommandations, parmi lesquelles celle de faciliter le vote postal, etc., etc., mais d'organiser le scrutin sur une période de 3 jours. Et permettre aussi que, dans certains cas, on puisse compter le début bulletin qui arriverait jusqu'à 24 heures après le début du scrutin. Ça, c'est au mois de septembre. Le gouvernement a attendu au 10 décembre pour déposer un projet de loi. Il l'a appelé pour en débattre la première fois quand? Au mois de mars. Hein, parce que c'était vraiment important. Hein? Alors, on s'en est pas occupé avant... Je vais te donner la date exacte. Avant le 8 mars, la première fois, puis en 51 jours, on en a débattu 3 heures. Et là, tout d'un coup, on se réveille et c'est l'urgence nationale. On met un baillon pour adopter ce projet de loi le plus rapidement possible et l'envoyer en étude, en comité. Alors, tu sais, moi, je me mets à la place des autres des citoyens, puis je dis, ben, c'est quoi l'intérêt, là? Pourquoi pas avoir négocié, pas avoir trouvé un compromis?
Mais c'est fondamentalement... Je me souviens, moi-même, à l'Assemblée nationale, il y avait un comité qui s'appelait le comité consultatif du directeur général des élections. Puis c'était une espèce de comité pour que la loi électorale... un comité qui siégeait à huis clos, parce qu'on ne voulait pas que la loi électorale, ça fasse l'objet, justement, sur la place publique d'esclandre puis de chicane. On disait, il faut que les partis essaient de s'entendre avant... Tu comprends? Pour pas...
C'est la chose à faire. Absolument.
Mais là, adopter sur baillon des nouvelles règles électorales pour une élection qui est dans quelques semaines, c'est pas sain du tout, là.
Ben non, c'est absolument pas sain. Tout ça parce qu'on reproche aux conservateurs de prendre trop de temps à débattre. Mario, tu as déjà été chef de parti. Sur un sujet comme la loi électorale, on s'entend que c'est difficile de dire à tes députés qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. On s'entend? Alors, c'est totalement futile et c'est le genre de gestion du calendrier parlementaire qui envenime les relations entre les partis politiques. Mais pourquoi on en est rendu là, tu penses? À cause de We Charity? À cause de la prorogation? Ouais. C'est quand le gouvernement a prorogé, tous les projets qui étaient au feuilleton sont morts. Il a fallu recommencer Aide médicale à mourir, 25 jours de débat. Le fameux projet de loi qui a été adopté la semaine dernière là, sur la formation des juges pour les cas d'agression sexuelle. Tout ça, là, il a fallu recommencer. Là. Alors, on a perdu des journées et des journées et des journées à refaire le travail à zéro parce que le gouvernement avait prorogé. Puis là, tout d'un coup, péril en la demeure, un 10 mai, on met le baillon sur ce projet de loi-là. Et en toi, puis moi... C'est pas garanti qu'il va être adopté, là.
Mais est-ce qu'avec le projet... Là, je suis plus dans les effets que dans le processus. Là, parce que je pense que les électeurs, quand même... Notre système électoral a plein de défauts, mais certaines qualités. Puis une de celles-là, c'est que c'est simple. Est-ce qu'il y aurait un risque qu'on se retrouve comme les Américains à pas connaître les résultats le soir de l'élection?
Il y a un risque, mais qui est pas
énorme,
qui est assez mineur, je pense, parce que faudrait vraiment que ce soit une élection ultra, 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 ultra serrée. Parce que la réalité, Mario, là, c'est que nos soirées électorales au Canada, on déclare un gagnant avant que les bulletins, avant que tout ait été compté.
Oui, je comprends.
Alors, il faudrait que tu aies un immense nombre de comtés qui sont immensément serrés. Donc, je pense que la raison pour laquelle le directeur général des élections veut un vote sur 3 jours, c'est pour justement permettre aux gens d'aller voter en personne. Et éviter la crainte de contagion. Et là, en plus, le scrutin dont on parlerait ne serait pas dans les prochaines semaines. Ce serait un scrutin qui aurait probablement lieu au mois de septembre pour une élection déclenchée. En tout cas, c'est la rumeur en ce moment à la mi-août, où la majorité des gens vont avoir été vaccinés. Et la réalité, c'est que la procédure pour obtenir un bulletin de vote par la poste, elle demeure quand même un peu byzantine au Canada. C'est pas un automatisme comme du côté des États-Unis. Là. Alors, je pense pas qu'on peut vraiment comparer le risque, mais essentiellement, ce que le directeur général des élections a demandé, c'est de la marge de manœuvre pour pouvoir s'ajuster en cours de route et éviter l'espèce de scénario catastrophe qu'on a vu à Terre-Neuve, où étant lié par les paramètres très stricts de la loi, le directeur général des élections est obligé d'annuler l'élection à 24 heures d'avis parce qu'il n'avait pas pu se préparer en vue d'une montée des cas. T'sais. Mais ceci étant dit, à partir du moment où tous les Canadiens vont avoir eu leurs 2 doses le 30 septembre, une élection qui a lieu le 7 septembre, là, on va être rendu à quoi? À 60% des Canadiens qui vont avoir eu leurs 2 doses, là? On n'est plus du tout dans la même logique. Là.
Non, non, effectivement.
Ça a des lieux en pleine 3e vague. Donc, il y a quelque chose d'un peu... C'est comme une crisette parlementaire orchestrée de toutes pièces, tu sais?
Mais malsaine sur la loi électorale. Hey, je veux t'entendre sur cette division interne. Là. On n'a pas vu ça tellement souvent quand même, Québec solidaire. Souvent, un jeune parti, les gens sont enthousiastes, fondent leur parti ensemble. Mais là, on a l'impression que Québec solidaire est en proie à un véritable déchirement.
Oui, et moi, l'expression la plus simple qui me vient en anglais, « growing pain », tu sais, Les adolescents qui ont mal aux jambes quand ils grandissent trop vite, là.
Ouais, ouais.
Mais ça s'applique à un parti politique, tu sais. Et là, on est dans un parti qui a été fondé, tu sais, dans ses idéaux de collectif, de démocratie directe, socialistico-inclusif, etc. Et qui parallèlement, et donc, dont il y a une branche des militants qui adhèrent encore à ça et un parti qui se développe, un establishment qui se construit autour d'une normalisation, d'une professionnalisation, de stratégie électorale. Alors, le choc arrive et que le choc arrive entre ces deux mouvances-là autour de ce qu'on appelle la gauche identitaire, qui est quand même un mot assez surréel entre toi et moi, mais c'est pas surprenant. Et là, donc, on a ce... Attends, faut que je suis pas capable de me rappeler du nom. Le collectif antiraciste décolonial. Ça dit tout. Qui est l'aile la plus radicale en termes de lutte contre le racisme systémique et qui est très souscrit aux thèses de l'oppression blanche, etc., qui est en guerre contre le parti parce que le parti l'a réprimandé d'avoir traité un journaliste d'extrême droite. On est dans un discours de menace, d'oppression, et là, ben, il y a un risque de schisme réel. Mais je pense que ça, pour monsieur, madame, tout le monde qui est pas abonné à ces petits conflits internes, je pense que c'est une leçon intéressante des dérives qu'amène cette gauche intransigeante.
Mais c'est un test pour les dirigeants de Québec solidaire, quand même, là.
Ben oui, absolument. Parce que si Québec solidaire ne mate pas ce problème-là au sein de son parti, il risque d'être engouffré dans ce discours de l'intransigeance progressiste, là, tu sais, où on condamne, où on est victime de pression, où tout est réduit à la race, c'est la capacité de Québec solidaire d'amener des nouveaux électeurs, d'élargir ces appuis qui sont en péril. Parce qu'on s'entend que cette mouvance woke, là, tu sais, elle est très bruyante, elle est très mobilisée, elle est très dérangeante. Mais c'est une infime minorité de la population, là. Alors, si Québec solidaire ne règle pas ce problème-là, il y a un risque qu'il soit un peu engouffré, si on veut, par ces déchirements-là. Mais c'est pas si facile que ça à régler parce que je connais pas toutes les règles très strictes des conseils nationaux de Québec solidaire, mais la direction du parti s'est réveillée un peu tard pour agir de manière cohérente. Et là, ben, on se retrouve avec ce qui pourrait être un affrontement, mais qu'il va falloir régler en 30 minutes sur le plancher du Conseil national la fin de semaine prochaine. C'est pas évident.
Avec des gens qui sont pas faciles à négocier. Hey, merci, Emmanuel.
Non, ils ne négocient pas, ils ont raison.
Ah oui, j'oubliais. Bye bye.
On dit pas.